I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast TFTC, TFTC le podcast. À mes côtés dans ce studio, Guillaume et Aurélien, comment allez-vous ?
Ça va et toi ?
Ça va et toi ?
Écoutez, vous entendez ces éclairs derrière ? Et cette petite musique angoissante, c'est un podcast spécial Halloween.
Mais non,
flippant. Et oui, flippant. On va chacun vous conseiller un film d'horreur. Voilà, à regarder avant le 31 octobre, c'est ça Halloween, hein, c'est le 31
ouais,
octobre.
Ouais, 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 la nuit de 31.
Exactement, comme ça, ça vous laisse une dizaine de jours comme ça pour regarder nos films d'horreur, si on vous convainc de les regarder. Donc voilà, sinon ça va les gars ?
Très bien, et toi ? On est en forme, on attend ouais. Le pot de chiasse en vrai. Hein.
Oui, voilà, alors, oui. Déjà, j'aimerais dire deux choses. Déjà, j'aimerais dire merci aux gens d'avoir été aussi enthousiastes pour le podcast, mais aussi pour le retour du podcast une fois par semaine, et aussi pour votre plaisir à avoir écouté le mot sous-couté.
Ah putain,
tout le monde en parle dans les. Enfin, tout le monde en parle.
Tout le monde en parle.
Tout le monde en parle. Donc voilà, aujourd'hui, on va parler de films d'horreur spécial Halloween, et on va commencer avec le film de Guillaume.
Ah oui, avec plaisir. Alors. J'ai hésité avec deux films, j'en ai regardé deux. Il y en a un dont je vais faire une mention spéciale, à savoir Mr. Babadook. Vous avez vu ça ?
Quoi ? Non, c'est vraiment nul en film d'horreur.
Alors, c'est pas une sorte de grand. Ah si, je l'avais vu au cinéma ce film. C'est un grand personnage pour enfants, un peu dessin, bande dessinée.
Exactement, et en fait, c'est une mère qui habite avec son fils solo, le père étant décédé. Le fils, il a un peu des problèmes à l'école, il a des problèmes de concentration, il a des problèmes à être pote avec les autres. Il est très turbulent, et en fait, il se réfugie beaucoup dans l'imaginaire. Il dit que. Il connaît un monstre, il y a un monstre dans sa maison, etc. etc. Ah. Finalement, arrive un jour un livre qui n'était pas censé être dans l'étagère. Elle dit, mais tu l'as trouvé où ? Dans l'étagère. Ah bon ? Trop bizarre, elle ne se souvenait pas d'avoir ce livre. C'est le livre de Mr. Babadook.
Aïe.
Alors, c'est un film qui fait peur, mais ce n'est pas de celui-là dont je vais vous parler.
Dans mes souvenirs, je n'avais pas trop aimé Mr. Babadook.
Ben, en fait, il y avait vraiment des bonnes scènes. Moi, j'étais un peu sur ma fin, à la fin. Mm. Mais en vrai, je trouve que le postulat de départ est pas mal original, d'être hanté par un personnage de livre pour enfants,
ouais.
Qui est quand même un peu flippant, mais qui est quand même un personnage de livre. C'était pas mal. Mais c'est pas de ça dont je vais vous parler, parce que... Alors déjà, il m'est arrivé un truc pas mal. Je l'expliquais à JB. Je recherchais un film, voilà. Un film...
Ah oui, je sais de quoi tu as parlé.
Ouais, je recherchais un film...
Que tu connaissais ou...
Ouais, en fait, je cherchais un film d'horreur que je voulais voir qui s'appelle Henry, voilà, Portrait d'un serial killer.
Ah ouais, 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 il est chaud celui-là.
Et voilà, et en fait, je le cherchais, je ne l'ai pas trouvé en dispo en VOD. Du coup, je commence à regarder sur Google les films qui ressemblent à ça, tu vois. Je vois un film qui s'appelle Carnage avec Jason Alexander, le premier rôle de Jason Alexander de Seinfeld dans un film. Je me dis, oh,
George Costanza dans Seinfeld.
Exactement. Je me dis,
mais
pas
avant
mal.
Ou après Seinfeld ?
Non, avant, bien avant. C'est son premier rôle.
Seinfeld, tout premier rôle 80, ever.
Seinfeld, c'est 89, je crois.
Son tout premier rôle.
Ah ouais.
Finalement, je me dis, tiens, je vais aller chercher ce truc. Je le trouve pas. En fait, je vois qu'il est en entier sur YouTube. Et en fait, quand je vais dans les commentaires, ils ont mis que c'était ça, mais c'est pas le même film. Donc, bon, n'importe quoi.
Ok.
Finalement, j'arrive à trouver la bande-annonce de ce film, qui est sur YouTube. Carnage. Et la bande-annonce de ce film, il y a 4 commentaires dessous. De la même personne, pas au même moment. Donc il y a 9 mois, il y a 1 an, il y a 10 mois, etc. La même personne qui se répond à peu près comme si on l'avait posé des questions.
Un ouf.
Un ouf. Et je crois que les commentaires, donc la bande-annonce, évidemment, on voit rien de spécial. Juste pour faire un petit spécial, les commentaires sont incroyables.
Ok, donc... Les gens iront voir.
Ouais, les gens iront voir les commentaires parce que déjà, c'est un peu. C'est vraiment. En gros, c'est plus flippant que tous les films que j'ai regardés. Les commentaires, c'était vraiment une sorte de personnage un peu fou. Il y a 4 commentaires et qui dit plus ou moins ouais, les méthodes dans ce film, ça pourrait peut-être devenir une réalité pour moi.
Ouais, un ouf, quoi.
Un ouf, un bon ouf. Un bon cinglé.
C'est le normal, avec le mec ou quoi ?
Ouais, c'est très bizarre. Et donc, tout ça, ça m'emmène à me dire bon, bah, finalement, j'ai pas vu Carnage. Mr. Babadook, c'était cool, mais je suis pas chaud de vouloir en parler, etc. Et finalement, je suis sur Canal VOD et je vois un film de Romero dont le titre m'attire, puisque c'est pas du tout un truc de zombie, à savoir The Amusement Park. Vous en avez entendu parler ?
Ouais, j'ai déjà vu, j'adore ce film.
Je vais pas l'aborder.
Et ben voilà. Donc c'est un film de 52 minutes qui a la particularité de, du coup, pas du tout contenir de monstres, etc. L'idée étant que c'est un film à propos de la vieillesse, de la fin de la vie, qui est un film à la base qui a été une commande, parce que Romero, à l'époque, il a plus de thunes. Il s'est fait arnaquer par le distributeur de zombies qui, en fait, passait dans le domaine public sans faire exprès sur une mauvaise déclaration administrative. Du coup, il touche aucune thune sur son film. Du coup, il est en galère et du coup, il prend des commandes. Il prend des commandes, notamment une sorte de centre luthérien à propos de, qui lui fait une commande à propos de, des vieux, qu'il faut s'occuper des vieux, etc. Il fait un film de commande, donc l'acteur principal, au début, il parle, il dit « Ce que vous allez voir dans ce film, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. » Très bizarre. Et en gros, ça s'appelle Amusement Park, parce que c'est un vieux qui se rend dans un parc d'attractions. Le parc d'attractions, c'est évidemment la joie, la vie, les jeunes qui bougent dans tous les sens. Et on se rend compte de, il a mis dans le parc d'attractions tous les trucs qui font que les vieux ne sont plus adaptés à la vie, à savoir, personne ne les respecte, on les bouscule, on leur vole des choses dans les poches, etc. etc. Sauf que ça a créé un peu en moi comme la... un peu à la manière de Mother, vous voyez ce film, ouais. Où d'un seul coup, en fait, c'est pas que c'est flippant, mais c'est suroppressant. C'est genre, ah, il y a du bruit partout, c'est assez horrible. Ouais. Et en gros, c'est pour traiter de la façon dont on traite la vieillesse. Et qui est d'ailleurs relativement actuelle, puisque au final, c'est à peu près la même chose maintenant, tu vois. C'est un film de 73. Et ce qui était méga intéressant, c'est que ce film, en fait, il a disparu pendant 48 ans. C'est-à-dire qu'il l'a filé au centre luthérien, là. Le centre luthérien, il l'a regardé, ils ont dit « Ouh là, c'est un peu vénère, quoi.
c'est un peu d'arcos. »
On voulait un truc de commande, un truc propre, quoi.
Il voulait une pub, en fait.
Voilà. Et en fait, lui, il l'a tourné en 3 jours avec un budget minime et tout. Il voulait plus une pub, voilà. Et en fait, il s'en trouvait avec un truc, un peu un objet hybride, film d'épouvante, un peu... Du coup, ils s'en sont servis 3 fois. Ils l'ont montré 3 fois et après, ils s'en sont plus jamais servis. Ce film, Romero, il l'assume pas vraiment, donc il s'en fout. Et finalement, 48 ans après, une fois que Romero est mort, etc., il y a un centre qui veut faire une sorte de rétrospective et qui dit ah, on a retrouvé ce film, ce serait peut-être intéressant de le montrer. Il a une copie, ils en font une copie DVD, ils l'envoient à la femme de Romero. Finalement, ce film, il est ressorti 48 ans plus tard. Quoi. Et donc, 48 ans plus tard, peut le redécouvrir. Et en vrai, ben, regardez-le parce que ça dure 52 minutes, donc c'est assez rapide, mais c'est une expérience quoi.
C'est un format documentaire un peu.
Pas vraiment en fait, sinon c'est vraiment une fiction. Une fois que le mec il fait un énoncé au début, un énoncé à la fin,
ouais.
Comme s'il disait voilà, comme ça vous voyez comment c'est d'être un vieux en ce moment, faut faire attention aux vieux, etc. En fait, le monstre dans ce film, c'est le fait de vieillir, le fait de plus être dans le coup, le fait d'être trop lent. Le fait d'avoir des problèmes de santé, le fait de plus marcher assez vite, le fait que les distractions qu'on te propose, bah c'est horrible quoi. Tu vois, c'est genre, tiens mais ça t'intéresse ça, toi t'es vieux et tout. Puis là, non, pas du tout. Le fait que, à un moment par exemple, il va parler à des enfants, et d'un seul coup on va lui dire, mais t'es un pervers en fait. Et il dit, non, mais en fait c'est que des malentendus, etc.
Ouais.
Et tout s'accumule, tout le temps. Et à la fin il finit, voilà, je vous spoil pas. Mais c'était hyper intressant. Alors...
L'affiche est sublime.
L'affiche est sublime. Ouais. Est-ce que c'est...
Un manège dans les
c'est pas vraiment un... On pourrait pas vraiment appeler ça un film d'horreur, quoique je pense que si tu le regardes bien tard, vu que c'est très concept et qu'il y a quand même le grain des années 70-73,
de base c'est flippant,
c'est filmé un peu, il y a des scènes filmées Romero en très close-up mais en fisheye, tu sais, un peu où il est perdu, etc. C'est quand même un peu flippant, c'est un peu étouffant. Et voilà, j'ai vraiment adoré quoi.
Est-ce qu'il y a un moment où t'as frissonné?
Non, j'ai pas frissonné, mais il y a vraiment des scènes de gros malaise quoi.
Il y a des jumpscares ou pas?
Non, pas vraiment. Okay. Non, c'est pas ça le délire. C'est juste qu'en fait, en gros, le pitch c'est ça, c'est un vieux qui rentre dans un parc d'attractions et il va y vivre son pire cauchemar.
Ah.
Et le pire cauchemar c'est ça. Et en fait, le monstre c'est la vieillesse, la mort, qui est tout le temps un peu dans les parages. Voilà, cette façon de maltraiter les vieux quoi. Et c'est vraiment intéressant.
Alors, en fait, il y a. Je reviens sur des trucs que tu viens de dire. Il y a. Dans les années 50, c'était aussi un peu la mode de faire parler des acteurs avant un film, ouais. Ou alors pendant les bandes annonces. Je me souviens que par exemple, pour le film Marty avec Ernest Borgnine, c'était Burt Lancaster qui, dans la bande annonce, présentait le film.
Ouais.
Il disait voilà, vous allez voir ça, vous vous apprêtez à voir ça. Et c'est quelque chose qu'on ne voit plus vraiment aujourd'hui. C'est comme s'il y avait Seven qui sortait et Brad Pitt qui disait vous allez vous apprêter à voir un film sur un tueur en série, tout ça.
Ouais, exactement.
C'est assez particulier de faire
c'est
ça.
C'est assez particulier et surtout que lui, il fait aussi la conclusion. Et qu'il dit voilà.
Ouais.
Donc voilà, vous savez ce,
voilà ce qui s'est passé. Quand vous
voilà ce qu'il vous reste à faire. N'oubliez pas qu'un jour aussi vous serez vieux, etc. C'est vraiment pour t'alerter. D'ailleurs, c'est bien. C'est quand même un peu déprimant, quoi.
Ouais, et l'autre chose aussi, c'est. Moi, j'adore les films sur la vieillesse, qui parle de la vieillesse. Un de mes films préférés, c'est un film justement de Bergman qui s'appelle Wild Strawberries, qui parle de la vieillesse. Il y a aussi, je me rends compte qu'en vrai, quand je pense à mes grands chefs-d'œuvre préférés, ça parle souvent de la vieillesse. Il y a aussi Voyage à Tokyo de Ozu qui parle de ça.
Très beau.
Pour ceux qui n'ont jamais vu ce film, c'est l'histoire de jeunes gens qui rendent visite à leurs parents qui sont déjà très âgés. Et qui sont aussi grands-parents pour leurs petits-fils.
Non, c'est le contraire, c'est les grands-parents qui rendent visite.
Oui, c'est les grands-parents qui rendent visite, et en fait, on sent le décalage avec les enfants, mais aussi avec une société.
Avec la ville, parce qu'ils viennent de la campagne, et qu'ils sont un peu perdus.
Et moi, j'ai toujours aimé ces films-là, quoi. C'est pour ça que j'aimais aussi Amusement de Parc.
Il y a un film qui s'appelle Nebraska aussi.
Évidemment, avec Bruce Dern et Will Forte.
Ouais.
Qui est un super film.
Un père qui s'en va, je sais plus ce que c'est le pitch, mais qui s'en va en pèlerinage tout
non,
seul.
Non, c'est pas ça en fait. On pourrait dire que c'est un pèlerinage, mais le synopsis du film, c'est Bruce Dern, donc un papa assez vieux qui perd un peu la tête et qui un jour ouvre un magazine. Et vous voyez, parfois dans ces magazines, il y a ces vieux chèques cadeaux. Vous avez gagné
c'est
un million.
Ça, c'est ça, ouais.
Mais tout le monde sait que t'as pas gagné un million, quoi.
Ouais.
Et lui, il dit à son fils, voilà, je suis sûr d'avoir gagné un million. Regarde, il y a le papier juste devant moi. Mais on sait tous que c'est un scam, quoi.
Ouais, ouais.
Et en fait, comme il a pas envie de faire de la peine à son père, il accepte de le suivre dans un périple pour aller récupérer ce chèque d'un million qu'il n'aura jamais, quoi. Et le film est super, c'est un film en noir et blanc dans mes souvenirs.
Un bon road trip père-fils, pas mal.
Ouais, que j'avais vu au cinéma et c'était trop bien. Bon, bah, très bon choix, Guillaume.
Ah ouais, franchement.
Excellent.
Est-ce que t'as une musique à nous conseiller?
Ouais, je peux vous conseiller un groupe que j'écoute beaucoup en ce moment, qui est un groupe de Vancouver, un groupe de punk qui ressemble un peu, pour les connaisseurs, ça me faisait penser un peu à F-Minus, etc. Le groupe un peu punk vraiment basique. Un peu moins vénère que Spy, pour ceux qui écoutent Spy en ce moment, parce que je sais que c'est la grande mode. Un truc qui s'appelle Chain Whip, et c'est pas un morceau qui est sorti sur le dernier album qui vient de sortir, c'est un morceau sur l'album d'avant qui s'appelle Amber Alert.
Très bien, merci Guillaume. Je vais enchaîner avec le deuxième film de ce podcast spécial Halloween. Il y a quelques jours, parce qu'en fait, voilà, on s'est dit, dans notre conf TFTC, on s'est dit, choisissons chacun un film d'horreur. J'en ai vu pas mal parce que moi, j'aime beaucoup ce genre. Et j'ai l'appli Mubi. Tiens, d'ailleurs, je t'ai pas demandé, Guillaume, tu l'as vu sur... oui, Canal VOD, tu l'as dit tout à l'heure.
Ah oui, j'ai pas donné ma note.
Oui, ta note, alors.
Comment on note ce film? Bah, c'est un peu un ovni, alors. Bon, ouais, 8.
Oh, c'est une belle note.
Ouais.
Bravo.
Ouais.
Et donc, oui, ouais. Et donc, tu l'as vu sur Canal VOD, c'est ça?
Ouais, Canal VOD, ouais.
Et moi, je traînais sur Mubi, qui est une appli que j'aime beaucoup. Et en fait, ils m'ont proposé un film d'horreur que je n'avais jamais vu et dont j'ignorais l'existence. Et j'ai passé un super moment. Ce film, il s'appelle There's Nothing Out There. À comprendre en français, il n'y a rien dehors. Qui est une phrase qu'on entend souvent dans les films d'horreur.
Ouais.
Ça a son importance. There's Nothing Out There, c'est un film qui a été réalisé en 1991 et c'est un film réalisé avec un petit budget par un type de 20 ans seulement, qui à l'époque travaillait dans un vidéoclub. Ce type, il s'appelle Rolf Kanevski, et en fait ce Rolf Kanevski, il arrive à réunir comme ça, tant bien que mal, aux alentours de 100 000 $, ce qui est quand même pas mal pour réaliser un premier film, et il réalise son premier film. Le type est fan de films d'horreur. Je le répète, on est en 91, et là il se dit, je vais créer un film qui oscillera entre horreur, fantastique, science-fiction et un peu de comédie quand même. Pourquoi de la comédie? Parce qu'il décide de réaliser un film à travers un angle assez particulier, parce que c'est celui d'un type qui va se moquer des films d'horreur. Il va faire un film d'horreur, mais il va se moquer un peu des codes qu'on retrouve dans les films d'horreur. Par là, j'entends le chat, vous voyez, le miroir, quand on ferme le frigo et qu'il y a un type derrière, etc. Ouais. Bref, tous ces codes-là. Et donc, c'est l'histoire de jeunes gens du lycée qui partent dans un chalet le week-end. Et là, il y a une bête comme ça, une sorte de bête bestiole qui ressemble à une sorte de grenouille de l'espace qui arrive pour tous les défoncer, quoi. Et en fait, au milieu de ces personnages-là, il y a un type qui, lui, est fasciné par les films d'horreur. Et pendant tout le film, ce type, il passe son temps à dire « Hey, si vous avez vu tel film d'horreur, vous savez qu'il ne faut pas aller dehors à cette heure-là, etc. » Est-ce que ce personnage vous rappelle quelqu'un? Est-ce que là, comme ça vous dit quelque chose?
C'est pas le mec dans Scream ?
Exactement, Aurélien. C'est
celui qui donne tout, parce que c'était déjà un peu le concept.
Exactement. En fait, dans Scream, il y a un type comme ça qui travaille dans un vidéoclub et qui passe son temps pendant tout le film à dire « Mais vous avez pas vu tel film ? Faut pas faire ça, etc. »
Faut pas quitter la pièce.
Exactement. Et en fait, pendant tout le film, There's Nothing Out There, il y a ce gars qui leur dit « Faut pas aller dehors, faut pas faire ci, faut pas faire ça. » Tout le monde le prend pour un fou, comme le personnage de Scream. Ouais, ouais. Et pourtant, ils y vont et ils finissent par mourir. Donc, le film pourrait être apparenté à un nanar dans les codes quand on le regarde, mais on passe quand même un bon moment, aussi parce que le film est assumé, c'est-à-dire qu'il y a des moments où il assume le côté amateur. Exemple, à un moment donné, t'as la grenouille qui poursuit un gars, le gars ne sait pas comment faire pour s'en sortir, et en fait, il y a une perche qui apparaît à l'écran, et là, il se sert de la perche pour basculer et aller dans une autre pièce, en fait. Tu vois, ouais. Donc, en fait, il se sert des défauts et de l'amateurisme du film pour le récit. Il y a un truc un peu méta qui est pas mal, quoi.
Ouais.
Et donc voilà, donc le film est cool à regarder. Parfois c'est assez marrant parce que c'est tellement nul que c'est marrant, ça joue peut-être tellement mal que c'est marrant, mais en même temps c'est assez maîtrisé et on se dit pas qu'on a perdu son temps en le regardant. Donc moi j'ai adoré ce film. J'ai pas vraiment eu peur, j'ai pas vraiment frémi, mais j'ai passé un super moment et c'est vraiment le genre de film qu'on aime regarder à Halloween parce que ça change de ce qu'on a l'habitude de regarder. Donc le visionnage de ce film m'a fasciné et après par la suite j'ai voulu me renseigner sur ce film. Ouais. Et ce que j'ai appris sur ce film, c'est que il a joué après d'un statut un peu culte dans les festivals parce que ce film a donc été fait en 91 et il a eu la malchance de sortir au cinéma le jour des émeutes à Los Angeles.
Ah what. Ouais.
Donc ce même jour il y a les émeutes et je crois qu'il y avait un autre événement aussi, ce qui fait que, enfin c'est bien que personne n'est allé voir ce film. Donc je crois qu'il est resté même pas une semaine à l'écran, ça a été un fiasco terrible. Mais quand il passait en festival, dans les festivals de genre, tout le monde était là, genre « Ah ouais, on a passé un super moment avec ce film, c'était trop bien et tout. » Si bien qu'un jour, il y a un type qui va voir le réalisateur et qui lui dit « J'ai entendu parler de ton film, à ce qui paraît en festival, tout le monde trouve ça trop cool, j'aurais bien une copie. » Ce mec, c'est le fils de Wes Craven.
Ouh. Ah, trop bien.
Et donc, il lui file la copie. Il lui dit « Bah grave, t'es le fils de Wes Craven, c'est trop bien. » Il a jamais eu de nouvelles de ce gars et 4 ans plus tard, est sorti Scream. Et Scream reprend globalement...
Ah mais ouais, globalement... Là, t'es en train de me dire, en fait, c'est Scream. Ils ont
bien sûr que c'est Scream. Et en fait, c'est évident que le gars a pris déjà la copie et l'idée du personnage.
Ouais.
Et aussi, ce côté un peu méta de « on fait un film d'horreur tout en se moquant des codes des films d'horreur ».
Là, ce qui est encore plus chaud avec Wes Craven, c'est qu'il se foutait de la gueule de ses propres films. Ça, c'était encore plus chaud.
Oui, mais... aussi, mais en fait, le truc, c'est que...
C'est vrai qu'il y avait ce truc-là.
Il lui a complètement volé le truc, quoi.
Ouais.
Et lui, bah, j'ai réussi à trouver une interview de ce gars qui forcément aujourd'hui n'est pas connu, quoi.
Ouais.
Et qui dit, bah voilà, tu sais, à partir du moment où moi j'ai envoyé la copie au fils de Craven, et qu'après je vois Scream, bah c'est une évidence qu'il a pompé des trucs, quoi. Tu vois.
Ouais, c'est sûr.
Et tu peux rien faire après, c'est fini, quoi. Tu vois, c'est terminé.
Avec le personnage, c'est sûr.
Et donc voilà, et en fait il est dispo sur Mubi, et j'ai adoré ce film. En plus, il y a une intro qui se déroule dans un vidéoclub, un vieux vidéoclub des années 90. En fait, quand on regarde ce film, on sent la passion d'un gars de 20 ans qui bosse dans un vidéoclub, qui passe sa vie à regarder des films d'horreur, à lire des magazines d'horreur, et qui se dit, tiens, moi aussi, j'ai envie de faire mon film, quoi, tu vois. Et juste ça, c'est trop bien, en fait. Donc, je lui donnerai la note de... C'est difficile de noter un film comme ça, parce que c'est pas un bon film, objectivement, mais en même temps, j'ai passé un bon moment. Donc, je lui donnerai la note de 6,5.
Ouh,
voilà, ok.
Une bonne note.
C'est pas mal.
Et donc, voilà, je vous conseille... Si vous avez Mubi, je vous conseille vraiment de regarder ce film, parce qu'il est assez particulier, et il y a quand même des moments qui sont... assez drôle parce que mal fait, parce que effusion de sang un peu ridicule. Et puis, oui, il y a aussi ce truc où, tu sais, pendant tout le film, tu sais, on sent que c'est fait par un ado de 20 ans, quoi, parce que la majeure partie des persos féminins, on est à une meuf qui va se baigner dans un lac, et en fait, à partir de ce moment-là, elle reste pendant tout le film en maillot de bain, quoi. Parce que t'as la grenouille qui poursuit la meuf, et il y a aucune excuse pour qu'elle se rhabille, quoi, tu vois. Donc en fait, elle est tout le temps en maillot de bain. Et tu sais, c'est vraiment le truc de années 90 de bon, bah voilà, tu sais, j'ai envie de faire de l'audience avec mon film. Donc il y aura de l'horreur, du sang et des meufs à poil, tu vois, un peu ce délire. Et donc voilà, mais le film est vraiment cool. Et je comprends pourquoi il a joué après d'un statut un peu culte dans un microcosme d'amateurs de films d'horreur, quoi. Et donc.
C'est marrant, comment souvent dans les années 80, dans les films d'horreur, il y avait toujours un truc érotique à un moment.
Bah, toujours, parce que j'ai l'impression qu'en fait, c'était aussi une manière de... En fait, quand t'es ado, parce que c'était pour un public ado aussi,
ouais.
Et quand t'es ado, que tu veux voir quoi ? Tu veux frémir et tu veux voir des scènes de baisse, quoi, tu vois ?
Je me souviens d'un nanar qui s'appelle Ratman, où c'était l'homme le plus petit du monde dans le Guinness Book qui a vu un seul rôle au cinéma, et il jouait le rôle d'un homme rat, quoi. Pareil, dans Ratman, il y a une scène où avant d'agresser une meuf, et à la scène de la douche de la meuf. Mais la douche de la meuf, elle dure une plombe, et t'es là. Oui, bah d'accord. Et du coup, ouais.
Il l'attaque ou pas ?
Et après, il l'attaque à la fin, mais juste pour qu'il l'attaque, quoi. Il se passe rien de spécial, tu sais. En fait, ils font genre, ils l'observent. Oui, mais bon. Ouais, d'accord.
Bah, là, dans le film There's Nothing Out There, il y a un moment, alors c'est vraiment inutile pour le scénario, mais il y a un moment où ils arrivent dans le chalet, ils prennent un peu leur marque, ils vont dans leur chambre et tout, puis il y a le couple de. Genre la pom-pom girl du lycée et le joueur de foot américain, vous voyez ce que
je veux dire.
Et en fait, elle est en train de se laver, puis lui va chercher un truc dans la salle de bain, puis elle lui fait « Vas-y, viens, on a un peu de temps et tout. » Puis on voit juste séance, puis il commence à baiser, mais puis après voilà, c'est tout, mais ça sert à rien cette scène en fait.
Ça sert à rien du tout.
Ça sert vraiment à rien, on aurait pu s'en passer.
Pour exciter un peu.
Mais voilà, ça excite quoi. Mais évidemment, moi je regarde ça avec mon âge, je suis là genre « Oui, bon allez, la suite, tu vois. » Mais quand j'avais 14 ans, je devais être là genre « Waouh ! Qu'est-ce que je viens de regarder là ?» C'est incroyable. Et pour la musique, en fait, il y a quelques jours, je n'arrivais pas à dormir. Il devait être 3-4 heures du matin et j'allume la télé, puis je commence à aller de chaîne en chaîne. Et puis, je crois que c'était sur France 5, je commence à tomber sur, comme ça à 3-4 heures du mat sur un concert plutôt récent de Alain Souchon. Et moi, Alain Souchon, c'est un de mes chanteurs français préférés. Et puis, dans la salle, il n'y avait que des darons, quoi. Tu sais, c'est vraiment le Alain Souchon. Il doit avoir quel âge, Guillaume, maintenant, Alain Souchon?
Oh,
70,
non, non, il va vers les 80, là.
Ouais, il va vers les 80.
Ah, c'est eux.
Puis on sentait que ça datait d'il y a 2-3 ans, le concert, et il n'y avait que des darons. Et mais tu sais, en fait, tout était très calme, ouais. Très, très doux, tu vois. Il faisait ses chansons, il faisait son répertoire comme ça, puis les gens écoutaient. Parfois, il y avait des caméras sur le public, et puis c'était des couples, tu vois, pour la plupart de 50, 60 ans. Et on sentait qu'ils écoutaient ça en se disant « Ah ouais, c'est ce qu'on écoutait quand on avait 30 ans et qu'on faisait la route, tu vois, genre pour aller en vacances, j'en sais rien, tu vois. » Mais il y avait un truc très mélancolique dans l'ensemble. Et puis à un moment, il a joué la balade de Jim, qui est la chanson que je vais vous conseiller et qui est peut-être ma chanson préférée d'Alain Souchon. Et là, je l'ai réécoutée en live et du coup, voilà, depuis une semaine, je l'écoute tout le temps en boucle.
Dans sa grosse Chrysler.
La balade de Jim d'Alain Souchon.
Comme elle est partie, Jim a les nerfs. Jimmy boit du gin dans sa Chrysler. La presqu'île, le boulevard de la mer.
Aurélien, oui. Ton film d'horreur. Alors, je tiens d'abord à dire, avant que tu présentes ton film d'horreur, que toi, tu nous as dit en DM que c'était pas trop ton domaine, les films d'horreur.
Ouais, en fait, j'aime pas trop les films d'horreur qui font peur, vraiment. Enfin, c'est-à-dire que le côté jumpscare, machin truc, ça m'a jamais chauffé. J'aime bien Scream, j'aime bien les films de genre. J'aime bien les De Palma, les films avec des slashers, tu vois, ou des giallos, mais j'aime pas trop les films d'horreur, horreur.
Tiens, d'ailleurs, les gars, vous aimez quel genre de films d'horreur? Parce que moi, je sais que, par exemple, j'aime pas trop les porn movies. Vous voyez, c'est ce que j'appelle porn movies, ça va être les Saw ou les Hostels.
Ah ouais.
Tous ces films-là où ça montre vraiment, tu vois, les yeux qui sortent des orbites, c'est pas trop mon délire.
Ouais.
Moi, je suis très fan des films ambiance exorciste. De toute façon, en général, quand ça parle du diable ou des possessions,
ouais.
Moi, j'en raffole.
Ouais.
Mais voilà, c'est un peu mon style d'horreur. C'est quoi ton genre de film d'horreur?
Bon, c'est délicat parce que moi, j'aime bien Chucky, Freddy et tout, mais c'est vrai que. Je ferais plus tendance maintenant à regarder des films où l'horreur elle est humaine quoi. Tu vois des serial killers ouais. Comme ça tu vois.
Mmh,
ouais. Okay. Genre The House That Jack Built ou tu sais c'est pas vraiment un film d'horreur mais c'est un peu.
Ou quelque chose qui pourrait se rapprocher d'une histoire vraie.
Genre Schizophrénia tu vois ce film.
Ouais, ouais.
Film autrichien là. Bien flippant ça.
Et donc Aurélien.
Bah ouais moi c'est un peu ça aussi je pense que c'est les films plus tueurs en série les trucs comme ça ou les De Palma Carpenter c'est pas vraiment de l'horreur quoi c'est plus du fantastique
thriller horrifique sinon
ouais voilà
mais pas dans le gore quoi
non pas trop et pas trop non plus dans le tu sais vraiment je sais pas les séries là l'orphelinat et tout ça là.
Après c'est délicat parce que par exemple
l'orphelinat c'est Bayona c'est ça hein
ouais tous ces trucs là rec et tout là
on dit ça mais Massacre à la tronçonneuse
chef d'œuvre
c'est un chef d'œuvre d'ouf
oui mais là j'ai même plus envie de dire c'est un film de genre mais un peu comme les Dents de la Mer quoi. C'est Jaws, on peut dire à ce moment-là que c'est un peu un film d'horreur, quelque part, tu vois.
Ouais.
Après, vous mais connaissez l'exploit de Massacre à la tronçonneuse. Parce qu'on ne voit pas une goutte de sang pendant
ouais,
tout le film.
Pas,
ouais, c'est vrai.
Et il y avait aussi un truc,
ça
je me souviens...
flipper, mais c'est pas gore.
Avant, il y a quelques années, j'étais dans une émission d'Halluciné, là, avec Yohann Sardé, qui est la rédac-chef d'Halluciné. Il m'avait dit un truc sur Massacre à la tronçonneuse qui avait marqué, parce que c'est vraiment pour moi la définition du film. Il avait dit, quand on regarde ce film... À la fin, on se sent tout poisseux, en fait.
Ouais,
et c'est vrai qu'il y a un truc poisseux qui se dégage de Massacre à la tronçonneuse.
Un peu aussi à la délivrance et tout, tu sais, c'est
ouais,
un peu dégueu. Comme quand je joue du banjo, quoi.
Yes.
Voilà. Donc moi, en fait, je suis plutôt film de genre, voilà, un peu années 70, quand ça mélange un peu les genres, tu vois, quand c'est un peu thriller, polar, tu vois, comme on l'a dit, et qu'il y a un peu d'horreur dedans, mais c'est pas vraiment le le thème de départ, tu vois. Donc j'ai beaucoup cherché parce que je galérais, j'avais pas envie non plus de ressortir les Gremlins du placard ou les trucs comme ça. Et je suis tombé sur un film d'un réal que j'aime bien qui s'appelle Larry Cohen. Est-ce que vous connaissez un peu Larry Cohen?
Ça me dit un truc, Larry Cohen.
Larry Cohen, c'est un réal qui est un peu moins connu que tous les mecs des années 70 qui faisaient un peu des films de genre à la De Palma, William Friedkin, etc. Mais qui a fait pas mal de films de blaxploitation très connus dans les années 70. Notamment Black Kizar, Hell Up on Harlem. Vraiment, il a créé des personnages qui sont hyper importants et qui, avec des BO hyper connus de James Brown et tout. Donc, ces films sont vraiment importants pour la culture blaxploitation de cette époque. Donc, souvent repris par Quentin Tarantino, notamment. Et après, il s'est essayé beaucoup aux films d'horreur, un peu à la Roger Corman, donc avec peu de moyens, mais avec beaucoup de fun à l'intérieur, quoi. Des trucs un peu parodiques, etc. Il a notamment une série qui s'appelait It's Alive. Je sais pas si vous avez connu ce truc. Un truc, en fait, où vraiment, c'est genre un couple qui va avoir un second enfant et en fait, leur enfant, c'est une sorte de monstre qui se met à bouffer tout le monde dans la maternité. Et il va en faire trois, des comme ça, en fait. Et des naissances de monstres bizarres carrément, okay, comme ça. Et là, en fait, le film que j'ai choisi, c'est un film un peu un mélange de tous ces styles-là, donc de l'horreur un peu parodique et du film de genre de gangster et de braquage un peu. C'est un film qui s'appelle Q, en carré. Q, le serpent.
Donc la lettre Q, justement.
Ouais, Q, the Wicked Serpent, en français, c'est Épouvante sur New York. Ils sont cherchés ça loin.
Yes.
Ou Flic de choc au Canada. Donc là, on est vraiment sur. Ouais, ça n'a aucun sens.
Après, en vrai, Épouvante sur New York, moi, ça me chauffe.
Ouais,
années 70, Épouvante sur New York, ça donne envie.
En fait, le film sort. C'est vraiment de l'après 70, ça sort en 1982. Mais c'est vraiment le New York poisseux des années 70. Et ça qui est fort avec Larry Cohen, c'est que le vrai délire du film, de base, c'est le New York comme on l'aime bien quand il est filmé. T'sais. Filmé un peu à ras des yep, on voit les bouches d'égout, on voit les taxis, ça va un peu dans tous les sens.
Il y a de la fumée dans les impasses.
Ouais, et puis ça va vite, tu vois, c'est vraiment un mélange.
Il y a des
prostituées
partout à chaque coin de rue.
Ouais, il y a un côté, ouais, voilà, il y a ce côté très fin 70, début 80, très le New York Giuliani, là, avec les gangs, le côté un peu poisseux, tout le monde se bat, se bagarre et tout, enfin, c'est assez fou. Et donc il y a ce côté très proche de la rue qu'on voit dans le film, et le personnage principal de ce film est en fait un énorme serpent volant qui est en fait Q, le fameux, alors je vais le dire mais je suis en galère parce que je suis pas très espagnol, le Quetzalcoatl.
Okay.
Le fameux Quetzalcoatl qui est genre le serpent à plumes des légendes aztèques, des légendes mexicaines en fait. Et en gros, toute l'histoire est sur le fait que dans les 5 premières minutes, vois...
Excuse-moi, je suis désolé de te couper Aurélien, mais je t'entends regarder justement la bio de Larry Cohen, parce que Larry Cohen, ça me disait quelque chose.
Ouais.
Et je sais pourquoi ça me dit quelque chose, parce que c'est lui qui a écrit Maniac Cop avec Robert Jdar.
Exactement, c'est un très bon scénariste, il a écrit pas mal de films de ce genre. Et son dernier grand scénario, c'est Phone Game. Vous vous rappelez de ce film avec Colin Farrell, où
bien
il est genre au téléphone
Joel,
et tout.
Joel Schumacher. Ouais.
Et donc, c'est un grand scénariste. Et là, justement, sur ce film, il signe le scénario et la réalisation. Et donc... Le film, ça se passe à New York, il y a des meurtres, mais des horribles meurtres. Des gens qui se font attraper par le ciel, par un truc, on ne sait pas ce que c'est, et qui se font décapiter. Et les corps disparaissent. Et les corps, en fait, apparaissent et tombent du ciel dans New York, en fait. Et tout est filmé de cette façon-là. T'as du sang qui tombe du ciel, t'as des corps qui sont attrapés sur des piscines en haut des immeubles, tu vois, et qui pissent le sang, tu vois. Mais du sang un peu à l'arrache, en fait. C'est un peu en mode japonais, en mode kaiju, Godzilla et tout, tu vois, tout ce qui est, comment c'est fait et tout, c'est vraiment ça le truc. T'as ces meurtres-là, où tu vois que c'est une sorte de bête, un monstre, qui tue des gens, et en même temps, les mêmes policiers découvrent des cadavres d'hommes dont on a enlevé la peau. Ils les ont vraiment scalpés, quoi, mais entièrement, la peau entière. Donc le pitch de départ, c'est ça. On suit deux personnages, deux flics. Il y en a un qui est joué par David Carradine, le fameux acteur de Kung Fu, qui est aussi Kill Bill, que moi j'adore, je trouve que c'est un bête d'acteur. Et là, années 80, il est mortel.
Alors, Carradine, c'est pas celui qui est mort sexuellement,
ouais. Exactement, ouais, 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 il s'est pendu en même temps qu'il voulait se. Voilà, il se prend en même temps. Voilà. et son collègue, c'est Richard Roundtree, qui est donc. Un acteur noir hyper important dans les années 70, c'est le mec qui a joué Shaft. Donc le duo, c'est ça. Tu vois déjà un peu l'ambiance Larry Cohen qui mélange un peu les deux styles. le côté un peu, parce qu'on est en 82, donc l'après Kung Fu et le côté vraiment Blaxploitation qui a fait sa marque. Et à côté de ça, moi j'ai découvert un acteur, je sais pas si vous le connaissez, mais j'ai pris une claque monumentale, c'est le troisième acteur principal du film, qui s'appelle Michael Moriarty. Ah, Michael Moriarty, vous connaissez ce mec ?
Ah, ça me dit un truc.
Franchement, c'est la première fois que je vois ce mec, mais c'est un fou, c'est un malade. J'ai l'impression qu'il ne joue pas, j'ai l'impression qu'il l'est en fait, le gars. Je pense qu'il ne dit absolument aucun dialogue qui a été écrit. T'as l'impression que tout, absolument tout, est de l'improvisation, tu vois. Et ça le rend complètement incroyable dans ce film.
Okay.
C'est un personnage d'un mec qui était censé juste être dans un braquage. Donc il y a les deux flics qui sont en train d'enquêter sur les deux morts dont je vous ai parlé.
Non, et à côté, je connais pas en fait.
À côté, il y a ce mec qui est pris dans un braquage de bijoux et qui est un peu nul et qui au final récupère les bijoux mais les fait tomber et il essaye de se cacher. Il se cache dans le Chrysler Building, le fameux Chrysler Building là trop beau à New York. Il essaye de se cacher dans les combles et il découvre le nid du serpent à plumes.
Ah.
Et en fait...
Attends, spoil pas trop, parce que moi j'ai envie de le voir.
Là, c'est les 10 premières minutes. Et vraiment, le personnage de Michael Moriarty, qui s'avère être aussi un pianiste de jazz complètement avec la taxe, fait que genre, c'est une suite de moments un peu absurdes, où on ne comprend pas en fait où va l'histoire. Mais en gros, le pitch, c'est qu'il y a une secte d'Aztèques qui ont essayé de faire revivre le dieu serpent Quetzalcoatl là, et ils ont réussi, et donc il y a des meurtres de gens qui se font bouffer par le serpent, et en même temps des meurtres de sacrifices humains qui sont faits pour faire revivre le serpent à plumes, tu vois. Et toute l'histoire est là-dessus, sauf que le scénario va complètement dans un sens, ça n'a, vraiment, les personnages sont atypiques, un peu arnaqueurs, un peu scammeurs, donc tout mélangé. Il y a beaucoup de... Je sais pas, j'ai trouvé ça assez jubilatoire comme film. Genre, tout m'a fait marrer et en même temps, tout m'a pas fait peur, mais j'ai trouvé ça cool. Les dialogues, la façon dont c'était fait. Il y a des côtés un peu Carpenter dans le fait d'avoir des bonnes punchlines, tu vois, avec des mecs un peu style western, où à chaque fois que David Carradine, il sort un truc, c'est toujours des vannes un peu. Il y a de la violence, ça tire à la mitraillette sur des serpents, il y a, il y a des aigles, il y a... Enfin, il y a un mélange de King Kong et de Godzilla et de films un peu de gangsters un peu qui est très atypique. Et en fait, après avoir retravaillé un peu la filmo de Larry Cohen, je me suis rendu compte que j'adorais ce réal en fait et que c'était vraiment le genre de mec que j'aime bien et en fait dont on parle jamais parce que ces films sont un peu moins connus, mais qui sont un peu atypiques, pas jamais vraiment des classique, mais vraiment des bons films où tu passes vraiment un super moment, même si les moyens sont pas ouf. Et
est-ce que t'as frissonné pendant le film ?
Non, des fois c'est juste dégueu, mais dégueu marrant, tu vois.
Ouais.
Genre là, il y a un moment, il y a vraiment, c'est la première scène du film. Hein. Il y a un mec qui est en train de, qui est en haut d'un immeuble et qui est en train de faire les vitres, tu vois. Mmh. Et de l'autre côté des vitres, il y a une meuf et apparemment il y a un jeu un peu où il dit ah c'est ma meuf, elle l'entend pas, il fait ah je t'aime, il chante une petite chanson et elle fait ah, il est encore là, lui il est encore en train de me regarder et tout, et d'un coup pouf il disparaît, il part en l'air, t'entends ah, et après tu vois juste le corps avec la tête découpée, la tête qui roule et tout, tu vois, c'est que des trucs comme ça, t'as pas frissonné, okay, mais tu sais, c'est que des trucs un peu gore.
C'est marrant parce que du coup tous les trois on a choisi des films d'horreur, mais des films d'horreur qui font pas forcément peur.
Non, moi en fait je cherchais vraiment les trucs un peu style comédie, et après il y a trois scènes vraiment très bien, et je pense que c'est les scènes que lui il voulait vraiment faire, qui sont des scènes de, comme je disais, de piscine très en haut d'un immeuble, et où le serpent à plumes chope des meufs qui sont en maillot de bain en train de se baigner dans la piscine, tu vois. Et en fait, ça et le sang qui coule du ciel, je trouve que c'est des bonnes idées de mise en scène, de réalisation, et en même temps, ça se prend jamais au sérieux. Et les personnages entre eux se balancent tout le temps des vannes, et j'ai trouvé ça assez cool, même de comment ils se servaient du serpent à plumes, tu vois. Et vraiment, Michael Moriarty. J'ai envie de voir tous ces films maintenant parce que genre ça n'a aucun
sens.
The
Stuff.
Ça, ouais voilà, The Stuff qui est aussi un film de Larry Cohen. Mmh. Ah. Où genre le grand méchant est un chewing-gum géant. Ça n'a pas de sens. Donc
alors,
voilà,
tu mettrais combien sur 10 à ce film ?
Moi je pense que je lui mets un 8 parce que j'ai passé vraiment un super moment et rien que l'affiche me faisait grave envie depuis super longtemps, et un film qui s'appelle Q, bah je sais pas, ça m'a toujours un peu intrigué. Tout m'a intrigué sur ce film, pour le coup, même le cast, la façon dont il était fait, l'équipe, donc ouais, un bon 8 quoi.
Et alors ma question, je me doute un peu de la réponse, mais sur quoi t'as vu Via quelle plateforme t'as vu ce film?
Eh bah, ma plateforme perso, comme d'habitude.
Ouais, ouais, ouais. Perso, ouais.
Parce que là, j'ai vraiment cherché Larry Cohen dans toutes nos VOD. Là, je suis vraiment abonné à tout. Et c'est vrai que même, je pouvais pas acheter ce film sur Prime, tu vois. Donc,
bientôt la prison pour toi. Hein.
Ouais, je pense que je suis foutu. Là.
Parce que le débit est incroyable.
Bah là, j'en vois. Hein, en plus, celui-là, je l'avais pris il y a longtemps, parce qu'il m'avait déjà interpellé, parce que je m'intéressais à la filmo de Larry Cohen il y a déjà plusieurs années. Et je l'avais jamais regardé. Et c'est vraiment, tu vois, le fait qu'on ait un peu un truc imposé, ah, faut regarder un film d'horreur, que j'ai fait tous mes films que j'avais.
Et bah tu vois, t'es content.
Et j'ai fait, ah bah tiens, celui-là, enfin, je vais pouvoir le regarder.
Qu'est-ce que tu nous conseilles comme son?
Eh bien, ce week-end, je suis allé voir Asso on the Precinct 13 de John Carpenter. Et j'ai pris une claque de psychopathe quand le thème, le générique, a commencé. Le générique, c'est vraiment juste des écritures rouges sur fond noir. Mais en fait, d'entendre ce son que j'écoute régulièrement, premier degré, comme si c'était un morceau de musique électronique, donc produit par John Carpenter et Alan Hort. Là de le prendre sur des vraies enceintes dans un cinéma, franchement j'étais genre waouh. Wow. Ouais. Et je me suis dit surtout, c'est le thème de Assault on the Precinct 13, voilà.
Alors, vous l'avez peut-être remarqué, mais on n'a pas commencé ce podcast avec l'actu ciné. Pourquoi ? Parce que moi, cette semaine, je suis allé au ciné, mais pour voir Mean Streets, qui est un vieux film. Aurélien est allé au ciné pour voir le film.
Assaut, ouais, de Carpenter.
Voilà, donc en fait, on est allé au ciné, mais on n'a pas vu de film récent.
Non, c'est vrai.
Donc, on va passer sur l'actu ciné cette semaine. On en parlera dans deux semaines. Moi j'ai une petite nouvelle pour vous, parce que figurez-vous que à l'époque TFTC le podcast était We Love TFTC, vous vous souvenez,
ouais.
Et en fait les gens de We Love Cinéma m'ont contacté récemment pour me dire, est-ce que ça te dit, on a 5000 places à faire gagner pour une soirée le 31 octobre pour Halloween, pour aller voir plein de films au cinéma, surtout dans des MK2 à Paris. Ils remettent sur grand écran des films comme Le Silence des Agneaux, Alien, The Thing, Scream, L'Exorciste, Ring, Conjuring. Il y a même une avant-première de Vermine, le film écrit par Flaubert avec Jérôme Niel, etc. Et en fait, apparemment, c'est méga simple. Il suffit d'aller sur welovecinema.bnpparibas et vous mettez votre nom. Vous avez le droit de venir à 4, maxi 4 places. Et c'est gratos, en fait. Vous pouvez voir des classiques comme ça au cinéma.
Excellent.
Donc moi j'étais là, j'aurais dit non mais attendez, il y a un tirage au sort. Non, t'as juste à aller sur le site, tu t'inscris, tu peux aller jusqu'à 4 places et tu choisis le film de ton choix et t'as 4 places gratos.
Faites-le.
Donc très bon.
Allez-y.
Moi je vous dis, c'est un très bon plan. Les gars, vous savez où je veux en venir?
C'est l'heure des podcasts.
Non mais attendez, là on vient de conseiller un film d'horreur chacun. Est-ce qu'on se ferait pas un petit podcast?
Avec plaisir.
Parce que manifestement vous avez adoré le podcast.
J'en ai entendu parler du podcast.
Ah, le podcast, vous nous l'avez balancé en DM et sur Twitter et sur Insta et partout.
Podcast.
Alors figurez-vous,
enfin, jingle.
Que j'ai un jingle pour le podcast.
Non.
C'est parti, jingle.
Tout le monde s'est mis à dégueuler dans la salle. Ils dégueulaient partout les uns sur les autres.
Un très beau jingle.
J'adore.
Voilà, donc vous avez reconnu Choco dans les Goonies, qui raconte son histoire au Fratelli. Ce sera le jingle du podcast. Toi, Guillaume, t'avais un petit sujet, t'avais un petit topic pour le podcast.
Alors non, pas vraiment. Enfin, en gros, c'est plus quelque chose qui m'est... qu'on se dit souvent, en fait, c'est...
Oh là là. Attendez, juste entre parenthèses,
je me redresse.
Je trouve ça drôle que maintenant ce podcast se termine par un podcast qui n'a rien à voir avec le cinéma.
Ça n'a rien à voir.
Non mais en fait, moi,
parce qu'on se disait quand même que...
Non mais je voudrais quand même préciser une chose. Moi, je vois plus le podcast comme un... Pour ceux qui aiment Curb Your Enthusiasm de Larry David,
voilà.
Moi, j'aime beaucoup cette série. Et en fait, dans la série, Larry David passe son temps à dire « Ah, ça m'agace. » Et je trouve ça trop marrant, en fait. Et nous, avec Guillaume, oh, là, il y a des trucs qui nous agacent. Peut-être plus Guillaume.
Oh non.
Non, mais c'est vrai, on se dit jamais ça non, avec Aurélien.
Parce qu'aussi, maintenant, on se dit « Alors, on va devoir parler de ce qui nous agace. » Donc moi, je veux bien en parler. Il y a un truc qui m'agace profondément. Enfin, c'est pas vraiment de l'agacement, mais je trouve ça un peu absurde. C'est concernant l'attitude de certains gens qui sont abonnés à nous sur les réseaux.
Ah bon?
Oui.
Ah, je suis pas au courant, je découvre. Hein.
Quoi? Qu'est-ce que c'est que ça?
Hein?
Quoi?
Attendez.
Et Aurélien, il est sous le choc.
Non, avec plaisir, en fait. C'est pas... Merci d'être abonné. Mais c'est plutôt les gens qui essayent de... de guider ce qu'on doit faire.
Ah, je sais ce qu'il va dire. Mais ça, ça concerne ton compte, Guillaume.
Ça concerne mon compte, ouais. Et ça concerne, par exemple, voilà. Je suis dans une sorte d'impasse en ce moment, parce que tous les mercredis, je suis donc au Jamel Comedy Club avec le Random Comedy Club. Pour remplir le Jamel Comedy Club, je suis obligé de faire des stories pour dire que ça existe. Voilà. Le problème étant qu'il y a des gens qui n'habitent pas Paris. Et les gens qui n'habitent pas Paris, ils me disent « Bah oui, bah moi je m'en fous en fait, trop c'est trop, j'habite pas Paris. » Donc, je suis censé me dire
oh, « Déjà, trop c'est trop. »
Ouais, trop c'est trop. C'était écrit noir sur blanc. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Non mais attends, au bout d'un moment, tu sais genre, tu te dis « Bon, je soutiens quelqu'un. » Par exemple, quelqu'un qui t'aime bien son contenu, il fait du contenu gratos depuis longtemps, etc. etc.
Ouais.
Bon, là, ça, il lance un truc, ça marche un peu. Bon, bah sois content pour lui, non?
Ouais.
Au lieu de dire ouais trop c'est trop.
Ah il en a gros sur la patate Guillaume, attention.
Bah, il y a toujours un truc où je me dis bah en fait alors et en plus c'est méga. Il y a aussi un truc qui m'énerve, c'est par exemple
c'est pas de chasse.
Non mais ça par exemple regarde. Tous les c'est pas méchant du tout en général, c'est plutôt même gentil.
Moi je dois dire que je vous adore tous hein, sur mon compte.
Mais moi aussi. Mais quand, en plus quand tu commences en plus c'est vraiment pas vrai.
Quoi
c'est vraiment
pardon
pas vrai.
Pardon
parfois tu m'envoies des parfois, tu m'envoies des captures, tu dis regarde lui.
Non mais parfois il y en a qui sont pas gênés.
Mais il y en a qui sont pas gênés.
Voilà, il y en a qui sont pas gênés
parce qu'en fait, il y en a qui s'en foutent de c'est-à-dire que on n'a pas des comptes qui sont forcément compatibles avec la vie, c'est-à-dire parfois quand t'arrives quelque chose dans la vie, tu postes pas parce que t'as un autre truc. Et en fait, les gens sont très habitués à... Et avec plaisir. Moi, je le fais avec plaisir. C'est-à-dire, je fais rigoler les gens. Et voilà, ça me coûte pas grand-chose. Et ça... Voilà. Sauf que, par exemple, là, pas plus tard que tout à l'heure, tu dis... et c'est un message gentil. Mais si t'as... Par exemple, si t'arrives quelque chose dans ta vie quotidienne, tu vois, un truc pas... Une nouvelle pas dingue, ok ? Bon, t'as pas forcément envie de faire des blagues, voilà. Eh ben, par exemple... Tous les matins, je fais un petit vocal, avec plaisir, au canal de diffusion des Guilis, avec plaisir.
Avec plaisir.
Et ben là, je ne l'ai pas fait depuis jeudi, aujourd'hui. Plus de vocal le matin ? Je dis, ah ouais, désolé, c'était le week-end et tout.
Après, peut-être que Guillaume, c'est lui pour me faire l'avocat du diable, peut-être c'est plus de vocal le matin parce qu'on aime bien et que c'est gentil, tu vois.
Non, mais c'est gentil. Et je dis, ah oui, non, mais bien sûr, ça va revenir, c'est juste que c'était le week-end. Réponse.
Ah.
Mouais, week-end de 5 jours ?
Ah oui, là c'est énervant, voilà.
Là, tu dis,
c'est trop.
Par contre, oui, mais en fait...
je fais ce que je veux.
Surtout, je fais ce que je veux, et surtout, tu connais pas ma vie, quoi. Tu
et
vois
puis surtout, tu payes pas, frère.
Enfin... Non, mais surtout... ouais,
c'est gratuit,
après,
donc...
Et après, finalement, le message, c'était « Oui, parce que tu nous manques, etc. etc. » Très gentil. Soit c'est très gentil. Mais c'est vrai qu'en fait, parfois, les gens oublient peut-être que... Bah, surtout, tu fais ce que tu veux, quoi. Tu vois ?
Il en a gros truc, sur la patate.
Mais non, et alors en plus, j'en ai gros sur la patate d'Instagram. Instagram se dit, tu peux faire ta promo, mais tu peux pas mettre un lien externe, sinon ta story sera moins vue, etc. etc. Et plus
ah,
tu...
on comprend rien, ça.
Oh là là.
Ça
l'algorithme
info,
d'Instagram
là.
Qui, quand même, te dit, il faut que tu postes. Mais alors, faut que tu postes. Enfin, l'algorithme, c'est insupportable.
Ça l'énerve, ça. Hein.
Ah ouais, c'est insupportable. Ah, ouais, hein. Mais même nous, tu vois, ce que tu disais, ils postent pour le podcast, mais si tu mets nos noms dans la story, elle est moins vue. Si tu renvoies sur une autre plateforme, si tu mets un lien Spotify, la story. Oh, elle est là.
Ouais, en gros, pour vous expliquer, quand on fait des stories, mais moi en vrai, pour le coup, je m'en fous un peu, mais quand on met des stories et qu'on met un lien, donc par exemple un lien Spotify ou Apple qui renvoie vers le podcast, ça fera toujours moins de vues. Pour vous donner une idée, en général, mes stories font entre 15 000 et 20 000 vues, la story. Et là, quand je vais mettre un lien vers le podcast, ça va faire genre 10 000, donc 5 000 de moins parce qu'il y a un lien. Je sais pas vraiment comment l'expliquer, mais bon, voilà, c'est ainsi, quoi. Tu vois,
mais t'as ce truc où en fait, oui, mais sauf que du coup, bah, c'est un outil promotionnel et ils font non, non. Bah oui, mais du coup, quoi? À quoi ça nous sert alors?
Ça l'énerve, ça, Guillaume.
Mais oui, si t'es pas là pour faire ta promo, ouais. Tu fais quoi?
Il attendait avec impatience le podcast pour en
parler. Non, mais voilà. Après, ça m'énerve pas.
Non, mais alors, plus globalement, récemment, vous avez vu l'actualité. L'actualité très difficile. Donc j'imagine que quand on fait un podcast, on devrait se concentrer sur des choses beaucoup plus graves. Mais
bien
c'est
sûr.
Pas, mais c'est pas le ton du podcast. D'ailleurs, plus globalement, j'ai toujours vu TFTC comme un endroit où on se change les idées, quoi, tu vois. D'ailleurs, très souvent, ça c'est intéressant, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit « Ah, tu donnes jamais ton avis sur l'actualité. » Ou alors « Tu donnes jamais ton avis sur ci. » Parce que maintenant, il faut donner son avis sur tout aujourd'hui. Tu
ouais,
vois.
Ça c'est chiant ça.
Et moi, j'ai jamais voulu donner mon avis parce que je suis juste là pour faire des vidéos qui parlent de ciné, des podcasts qui parlent de ciné. Et moi, je sais que, personnellement, hein, je parle en mon nom, mais très souvent, quand je suis déprimé, ou quand je suis déprimé par l'actu, ou par ce qui se passe, etc., eh ben, je me réfugie dans les films. C'est un truc que j'ai toujours fait. Je me réfugie dans les films ou dans la musique. Et ça me vide le cerveau, en fait. Et je regarde mes films et je suis dans un autre univers. Et c'est un peu le but des films, finalement.
Et aussi, je suis désolé, mais je ne suis pas sûr que tout le monde ait les compétences pour donner
exactement,
son avis.
Exactement. Ça, c'est un autre point, en fait.
Ouais, c'est chiant, ça. Tout le monde est devenu analyste de tout. Dès qu'il y a un nouveau sujet, pouf, ça y est, t'es le spécialiste. Bah, arrête.
Voilà.
Mec,
Donc, raison pour laquelle on ne va pas s'attarder sur ce sujet que vous connaissez. Par contre. Moi, j'aimerais revenir sur les gens qui font des tweets à l'infinitif.
Ça, c'est un vrai sujet.
Ça, c'est un vrai sujet qui m'agace à comprendre. Et c'est surtout les tweeters cinéphiles.
Voilà.
Ils vont parler, par exemple, d'un film, ils vont l'écrire comme ça. Revoir Taxi Driver. Se dire que nanana. ça me chauffe ça.
Attends, je suis en train de me demander si je le fais pas des fois.
Ah non, arrête, ne le fais pas, s'il te plaît, Aurélien. Ah non, ne le fais pas.
Ah merde, je sais plus si je le fais.
Non, mais ça m'énerve. Genre, revoir machin. Oh, vas-y, ta gueule.
C'est un peu comme.
Non, mais écris ton tweet normalement. Et en plus, le pire, c'est que ça se trouve, le gars a des trucs intéressants à dire.
C'est un peu comme une formule qui a un peu vieilli. Je crois que plus personne le fait trop. C'est genre. Croiser Christiane Bale à l'aéroport. Check.
Ça m'énerve ça. Ça m'énerve.
À l'ancienne ça.
Un autre truc qui m'énerve aussi, c'est. Les gens qui vont imiter quelqu'un sur les réseaux, sur Twitter, et pour l'imiter comme un gogol, ils vont mettre des majuscules, minuscules, majuscules, minuscules. Tu vois, ouvrez les guillemets, majuscules, minuscules. Ouais, tu vois ce truc-là hein
ouais.
Ça m'agace.
Comme
un
quoi, tu dis?
Pardon?
T'as dit comme un quoi?
J'ai pas entendu.
T'as dit comme un quoi?
Je sais pas.
Ah, ok.
Pardon.
Ouais. Pas comme un idiot. Soit...
Non, mais c'est pas énervant les tweets à l'infinitif, franchement. Ça t'agace pas les
tweets. Il est en galère là.
Non, mais hey, revoir Kill Bill,
non,
se dire que.
Non, le tweet à l'infinitif, ça m'agace pas.
Mais allez, arrête. Mais ça
m'agace pas.
Tu me l'as déjà dit que ça t'agace.
Non, pas du tout.
Allez, arrête.
Non, et moi je vous adore. Il fait comme toi tout à l'heure.
Il fait comme moi. Non, écoutez, moi j'ai un gros sujet pour le truc.
Ah, le gros sujet.
Non, mais attendez.
Attends, Nemo, il a peut-être un truc à dire.
Non, mais après, j'ai
un truc qui me fait chier. Ça rejoint un peu ce que tu disais sur les réponses et tout. Tu sais, les gens qui t'écrivent, tu réponds pas.
Ah
et
oui.
Deux heures après, t'as juste un point d'interrogation.
Ah oui.
Mais ça, j'en avais parlé dans l'autre podcast.
Ok, bah je suis en retard.
Je crois. J'avais dit les gens qui renvoient trois points d'interrogation alors qu'ils ont envoyé un message il y a.
C'est chiant ça.
J'attends de toi un vrai sujet de podcast, Aurélien. Donc là, réfléchis.
Ok, bah voilà, je vais essayer d'arrêter de piquer les vôtres.
Réfléchis à un truc corrosif. Non, moi, écoutez, moi j'ai un gros. Tel envoyé spécial, j'ai un gros dossier pour
un gros dos.
Ouais, j'ai un gros dossier. Parce que j'en ai gros sur la patate, comme Guillaume, à propos des.
Ah non, mais j'en ai pas gros sur la patate.
Si, il en a gros sur la patate.
Non.
Il m'en parle tout le temps, tous les
jours. Oui, tous les jours.
Non, écoutez, c'est un truc comme ça qui m'agace depuis
des
années.
Ah, mais c'est quoi alors?
Bah, je vais te le dire. C'est la plateforme Tipeee. Bah quoi? Non, mais si, c'est la plateforme.
Je m'attendais pas à ça.
Il y aura jamais de partenariat, je vous le dis.
Ah, c'est clair. Mais c'est clair.
Mais c'est clair que je ne ferai jamais un Tipeee de ma vie, parce que c'est un truc qui m'agace. Pour ceux qui ne savent pas, Tipeee, en gros, c'est une plateforme sur laquelle on peut donner de l'argent par mois à nos créateurs préférés. Par exemple, on l'échange d'aucune contrepartie 99% du temps. Par exemple, je sais pas, t'adores, j'en sais rien, je dis une bêtise, n'importe quel créateur YouTube, et tu décides de lui donner 20€ par mois pour le soutenir. Et ben moi, je trouve ça honteux, en fait. Parce qu'il y a des gens sur la plateforme, ils reçoivent des 2-3 000, parfois il y en a qui reçoivent juste 7€, tu vois, c'est ridicule. Et pourquoi en fait?
C'est les mécènes.
Non mais c'est pour ça que je ne demanderai jamais d'argent aux abonnés de TFTC sans quelque chose en contrepartie ou quoi. Jamais. En fait, je me sentirais mal à l'aise de leur dire « Allez, donnez-moi 2 000€ par mois là. » On ne sait même pas où ils vont les 2 000€, tu vois.
Surtout, moi, le problème, c'est aussi que la plupart des gens qui sont enclins à donner, c'est peut-être des mecs qui sont ados.
Mais oui,
qui demandent à leurs parents de filer 10 balles pour filer à... Les gars, avec des mecs qui ont 30 balais, qui sont leur cul dans leur chaise à faire des montages YouTube, oui, bon.
Mais non, mais ça veut rien dire. Non, mais c'est, parfois, je vais sur la plateforme et je vois des gens, ils ont 8€ par mois. Genre, ça sert à faire à créer des projets, ça? Ça sert juste à acheter tes danettes et ta baguette, quoi, tu vois. Donc, en gros, tu payes le gars pour qu'il aille s'acheter ça, quoi. C'est abusé.
Non, mais après, alors, ouais. Alors, il y a deux choses. Pour moi, c'est genre, bon, déjà, je trouve ça, je suis un peu comme toi, je trouve ça un peu bizarre de donner, etc. Bon, bref. Mais après, en plus, si c'est une somme conséquente, tu gagnes 3 000€ par mois. Ben, d'accord, alors ça te soutient dans ton travail, etc. Quand t'as ton Tipeee, que tu l'as ouvert depuis un an et que tu gagnes encore 8 balles par mois, ferme ce Tipeee.
Non mais
au bout d'un moment, arrête quoi.
Non mais même les 3 000€, en fait, moi je vois les choses comme ça en fait. J'ai commencé TFTC, il y avait 80 abonnés, il n'y avait rien, etc. J'ai jamais demandé d'argent et je me suis dit, bon bah ça passera pas le travail et il y aura des vidéos. Et puis peut-être que s'il y a plus d'abonnés, bah peut-être qu'il y aura, je sais pas, telle ou telle marque qui voudra bosser avec moi. Et là, je pourrais gagner de l'argent. Et là, peut-être que je pourrais financer des projets à côté. En fait, j'ai toujours vu les choses comme ça. Mais je me suis jamais dit, tiens, j'ai demandé de l'argent à des gens, quoi.
Eh ben, je vais aller plus loin que ça. Pour moi, YouTubeur et créateur de contenu, c'est un métier que tu choisis. T'es ton propre patron. Et c'est censé être une passion. D'accord ? Donc à partir du moment où t'as ces trois trucs qui rentrent en compte, pour moi, il y a zéro c'est indécent de faire des stories pour se plaindre de ça.
Non, mais alors attends, là tu lances sur
un autre truc. Ah, là c'est un autre sujet là.
Non, mais attends, Guillaume, là il lance sur un autre truc parce que très souvent on
c'est
s'envoie
très
des.
C'est très indécent
non, mais, ça. Voilà, on s'envoie d'accord. Des... Parfois on s'envoie des stories avec Guillaume.
De se dire que les mecs sont là encore au travail et tout. Non, les gars, vous êtes en train incroyable. De vivre votre passion. Il y a des gens qui vous attendent, qui vous soutiennent. C'est indécent de dire à des gens qui sont. Qui ont des boulots qu'ils n'aiment pas. Qui gagnent rien du mois, qui galèrent, etc., leur dire « Oh, encore en montage !»
C'est consternant.
C'est
parfois,
honteux,
parfois,
en fait.
Parfois, on s'envoie des stories avec Guillaume de gens qui envoient leur timeline de montage à 3h du mat et qui mettent « Encore en montage à 3h ». Bah gars, on t'a pas forcé en fait, on t'a rien demandé.
Lève-toi à 7h juste.
Et genre,
la prochaine vidéo est incroyable, mais le montage va être fou. Ouais, bah excuse-nous quoi.
Non, mais regarde, à l'époque, je me souviens qu'à une époque, TFC, je faisais une vidéo par semaine. Je me levais à 9h du mat. Je me couchais vers 4h et je reprenais 9h du mat, 4h, etc. Mais jamais j'ai fait une story pour dire oh, je suis trop fatigué, regardez, je fais un tabs et tout. Mais non, mais c'est ridicule, tu vois. Genre, soit tu fais ton truc, mais arrête de te plaindre, quoi. Tu vois, c'est un truc qui me rend. Putain, le podcast, ça me rend, tu vois, un peu.
Moi, c'est un syndrome.
Là,
de
ça
genre,
me remonte, hein.
Si je peux me permettre.
Ils sont remontés comme des coucous, les gars.
C'est des gens qui ne se rendent absolument pas compte de la chance qu'ils ont parce qu'ils n'ont jamais bossé.
Non, mais en plus, non, mais si
de ouf,
pas,
en vrai.
Ce truc
si
de.
Passé
ils
par
ont joué aux jeux vidéo, en fait.
Non, mais tu sais, ça paraît très simpliste ce que je vais dire, mais tu vois, genre, je sais pas, ça viendrait pas à l'idée de me plaindre de faire du montage alors que je sais qu'il y a des gens qui, genre, juste, tu vois, ramassent des poubelles à 5h du mat, quoi, tu vois.
Ouais.
Je sais pas, je trouve ça fou, en fait, ça me dépasse, moi, perso, tu vois.
Et t'es là, encore une semaine à monter une vidéo.
Mais oui, non, mais arrête.
À monter une vidéo de toi qui parle à ta cam, enfin, mec, c'est bon.
Non, mais surtout, en plus, c'est toi qui as voulu faire ça, bah, sois content, en fait, c'est cool, tu vois. C'est rare de pouvoir faire ce qu'on veut vraiment, quoi. Tu vois.
Mais est-ce que c'est pas le mood, tu vois, du YouTube actuel d'être un peu, ouais, la santé mentale, vous rendez pas compte, c'est dur.
Enfin, vous rendez pas compte, mais c'est lui qui décide aussi, quoi, tu vois.
Ouais, je veux dire, c'est un peu une sorte de mode, un peu, de genre, en fait, tous les tafs sont, tu vois, au final, je réfléchis tout le temps, je suis tout le temps là-dedans et tout.
Mais c'est pareil dans le. Regarde, moi je suis à côté DJ et humoriste.
Ouais.
Et les DJ, vous plaignez jamais quoi. Arrêtez de vous plaindre en fait.
Ouais.
C'est le meilleur taf de la Terre. Vous mixez des chansons, les gens ils dansent. Voilà, c'est ça ton boulot. Ah ouais, mais tu te rends pas compte, quand tu mixes 3 heures de suite, mais ta gueule. Ta gueule de mixer 3 heures de suite. Ta gueule. T'es surpayé, t'as des coups gratos. Mec, arrêtez vos délires, franchement. Et humoriste, c'est pareil. Ouais, un peu la flemme. La flemme de quoi? De raconter tes blagues avec des gens que tu connais pas qui vont rigoler? Ça, je déteste ça.
Moi, franchement, pour moi, t'as le droit de te plaindre quand t'as un métier difficile, non, que t'es dame de ménage, que tu bosses la nuit et tout. Là, t'as le droit de te plaindre.
Rendez-vous
toi, mais
compte
arrêtez.
De la chance que vous avez quand vous avez de la chance, franchement.
Ouais, non, mais c'est clair.
Je trouve ça...
C'est voilà. Dur de savoir des fois, on s'en rappelle
que
plus.
Que t'as de la chance. Bah,
putain, en fait, je crois qu'on va arrêter le podcast parce que ça met dans un mauvais mood.
Tu vois, en plus, je suis pas sûr que les gens ils nous écoutent et soient là, ah, je suis pas d'accord. Je suis sûr qu'il y a des gens qui sont pas d'accord avec ce qu'on dit. Et c'est ça le podcast.
Oui, c'est le podcast. Voilà. T'as un petit truc comme ça qui t'a énervé,
on a le droit d'avoir un avis.
Aurélien,
ils veulent trop que j'arrive.
Oui, parce que toi, t'es le spectateur de Guillaume et JB sur le podcast.
Bah, moi, en fait, c'est vrai que je vois toujours un peu la vie du bon côté. Pour le coup, c'est rare qu'il y ait un truc qui m'énerve, tu vois. Mais. Si, il y a des trucs qui m'énervent, j'imagine. Mais
bon, moi, j'ai un truc en attendant.
je suis nul en podcast, putain.
Il n'y a rien qui t'énerve. Non, mais, ce qu'on dit, t'es d'accord au moins?
Ouais, bien sûr.
Bon. Non, attends, c'est très léger.
Il est obligé.
Mais parfois, t'es dans le métro comme
si,
ça.
Je suis d'accord.
Attends, t'es dans le métro et t'es assis. Bon, il y a un peu de monde, d'accord. Ouais. T'es assis et en fait, le métro vient de démarrer. Il y a déjà un mec qui se lève pour se préparer à sortir, tu vois. Et en fait, il se met devant toi et il te fait bien comprendre que tu dois mettre tes jambes sur le côté comme ça pour sortir. Alors que bon, ça va, il reste une station, quoi. Tu vois. Ouais, c'est juste ça.
Ah, ça, c'est chiant.
Et moi, je suis là, genre, arrête de mettre une pression mentale à côté. C'est bon, le métro, il va arriver, tu vas pouvoir sortir, quoi. Tu vois.
Moi, ça, c'est ce que j'appelle la synchronisation de la vie. Je sais pas si ça vous fait pareil, mais genre, quand je sors en vélo, il y a des jours où tout est clean, tu vois. Tu passes, t'arrives, pouf, le feu il est vert.
Ouais,
y a pas de voiture qui te font chier, y a rien. Tout est ok, tout le monde t'a vu, y a pas de problème. Et y a un jour, dans la semaine, tout est merdique. Tu sors ton vélo, pouf, t'as un mec qui passe avec une flaque d'eau. T'essayes de sortir ton vélo pile poil, y a une voiture qui arrive qui te klaxonne. T'arrives, c'est le feu rouge, tu veux traverser, t'as un keuf en face, ouais, t'as des gens qui regardent pas, et tout est merdique. Tout est merdique, t'arrives sur un carrefour et tout est pourri. Et tu te dis, mais pourquoi? Hier, j'ai fait le même trajet à la même heure, il n'y avait rien. Qu'est-ce qui s'est passé pour que là, toute la synchronisation soit merdique? Et j'arrive pas à comprendre ça, ça m'énerve.
C'est vrai,
ça m'énerve. Parce que je me dis, qu'est-ce qui fait que des fois, tout est cool et établi et tout va bien, et que la même chose, le lendemain, va pas du tout?
J'ai un autre truc aussi.
C'est chiant,
vrai ce que tu dis, je suis d'accord avec toi.
C'est globalement les gens qui parlent mal aux autres gens, quoi.
Ah ouais, ouais.
Non, mais le patient, ça veut plus rien. J'ai un truc, j'aime pas les méchants, tu vois. Les gens qui
non,
sont
mais attends,
non,
mais je veux dire, parce qu'il m'est arrivé deux fois la même chose.
Ah, je sais ce que tu vas dire.
En une semaine.
Je sais ce qu'il va dire.
Oula. Non, mais là, la semaine dernière, j'étais chez un pote. Il a une cour intérieure, je vous la fais courte. Ah, ouais. Il a une cour intérieure, j'ai ma moto et je garde la moto à l'intérieur de sa cour à spot.
Ouais.
Et voilà, on va manger, etc. On vient deux heures après. Et là, il y a la concierge qui arrive.
Ouais.
Et elle me fait, ça vaut la moto là? Sur un ton agressif. Ça vaut la moto là? Je fais, ouais, c'est à moi et tout. Elle fait, vous la sortez tout de suite. Je fais, ah, on peut pas la garer. Moi, je suis encore dans mon truc. Tu vois. Je fais, ouais. Ah, on peut pas la garer, je savais pas et tout. Elle fait, vous avez bien vu, vous avez vu un endroit pour la garer. Enfin, tu sais, elle me parle méga mal, quoi. Tu vois.
Ouais.
Et là, je lui dis, écoutez, je vais la sortir, mais pas la peine d'avoir un ton en fait. Pas la peine d'avoir un ton. Elle me fait, comment ça, un ton machin? Tu sais, elle me parle méga mal. Et je fais de toute façon, là, je vais pas le faire tout de suite parce qu'il faut que j'aille récupérer mon casque là-haut, donc je vais le faire là dans deux minutes. Elle fait non, pas dans deux minutes, tout de suite. Je m'attends. Genre, déjà, tu sais, je déteste qu'on me parle comme si j'étais encore au collège.
Ouais, c'est clair.
Et genre, tu sais, t'es ma prof et je suis ton élève, tu vois. Et là, je la regarde, je lui fais écoutez, je suis pas votre élève, vous êtes pas ma prof, je suis pas votre employé, vous n'êtes pas mon boss, donc je vais aller là-haut et voilà. Elle me fait ah ouais, et ben, vous allez voir ce qui va se passer, tu vois. Et en fait, ce qui m'a énervé là-dedans, c'est que, alors, j'étais en haut, je la vois d'en haut chez mon pote, elle est en train de prendre ma plaque en photo horrible, tu vois. Et dans ma tête, je me dis, bah, tu vois, cette meuf, s'il m'avait juste dit, ah ouais, nah, bah, non, on peut pas et tout. Tu sais, s'il si m'avait parlé gentiment, j'aurais été là, genre, bah, écoutez, madame, je vais me dépêcher, je vais la mettre dehors. Et puis, tu sais, en fait, parfois, les choses dans la vie peuvent se passer normalement.
Bien
quoi,
sûr.
Tu sais, on n'est pas obligé de parler mal aux
ça
gens.
Ça prend aussi... moins de temps, en plus.
Non, mais ouais, ça prend moins de temps, c'est vrai. Et aussi, il y a un truc que j'étais, c'est l'excès de zèle. Parce que ouais. Elle a son petit pouvoir de concierge. Elle ouais, a dit, tiens, je vais la faire chier, je vais le faire chier parce qu'il a pas le droit de faire ça, tu vois. Ouais. Bon, bref, ça m'a énervé, etc. Puis voilà, à la fin je suis parti un peu loin parce que je lui ai dit en temps de guerre vous auriez été une collabo.
Oh, ouais, 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 ouais.
Non, mais c'est bien elle, ça quand elle, ça ressort ça.
Elle m'a trop énervé. Bon bref, deux jours plus tard je vais chez Metal Luna, une boutique à Paris dont j'ai parlé là en story récemment.
Très belle boutique.
Super boutique. Et en fait je choisis des DVD comme ça. Et là il y a un type, je suis au début du bac de DVD sur la gauche. Et là il y a un mec qui vient sur ma gauche et qui me pousse un peu avec son bras en mode vas-y bouge tu vois. Ça se voyait que c'était un gars qui était habitué des lieux, genre 55 ans, cinéphile, cheveux gras, etc. Tu vois.
Et du coup, cinéphile, cheveux gras.
Non, et tu sais, il me pousse un peu avec son bras. Et là, je lui dis, vous cherchez quelque chose et tout. Et là, il me fait, j'ai l'air de pas chercher quelque chose en fait. Direct. Il me sort ça direct, tu vois.
Oh. C'est
quoi cette phrase?
Non, et là, pareil,
j'ai l'air de pas chercher quelque chose.
Je fais pardon. Il me fait, vous voyez bien que je suis en train de chercher des trucs. Je fais, mais là, en fait, j'étais là, vous êtes en train de me coller, vous me poussez avec votre bras et tout. Il me parle mal en réponse et je fais, mais. Pourquoi avoir un ton, encore une fois, juste ça? Pourquoi parler comme ça, en fait,
ouais,
tu vois? Pourquoi parler comme ça et tout? Et je sais plus ce qu'il me dit, mais il me répond un truc relou encore. Et là, je fais franchement, la réalité, c'est que vous êtes oppressant, là. Vous êtes en train de me toucher avec le bras. La boutique, elle est grande. Enfin, voilà, chacun son tour, j'en sais rien, tu vois. Et là, il me fait, oppressant? Tu m'as pas vu quand je suis oppressant. C'est pas ridicule comme réponse, ça?
C'est ridicule.
Et du coup, j'ai répondu juste, vas-y, casse-toi. Moi, je lui dis ça. Non, après, mais... il s'est barré, tu vois. Mais en fait, je comprends pas les gens qui parlent mal aux gens, en fait.
Ouais.
En fait, le truc, c'est que. Aujourd'hui, on vit dans une ère avec les réseaux sociaux où tout est horrible. On a accès à des images horribles, et là, on l'a bien vu récemment et tout. En fait, on est comme ça, assailli de pensées, de news et d'images horribles en permanence, parce qu'on utilise les réseaux à fond. Et dans la vraie vie, quand on a des connexions avec les gens, ça parle mal, etc. Tu sais, c'est infernal, en fait. Genre, c'est... L'ambiance générale est assez relou comme ça. Pourquoi rajouter un truc où on
surtout
se parle
que,
mal
effectivement, si t'enlèves les phrases comme ça, il va rien se passer de plus ou de moins. C'est-à-dire, la dernière fois, pareil, j'étais dans la piste cyclable. Et il y a un livreur Deliveroo qui veut me doubler. Et pour me doubler, il dit « Vas-y, bouge !» Et en fait, si tu peux me doubler sans le dire, en fait.
Ouais.
Moi, ça « Vas-y, bouge !»
Ça sert à rien, ça.
Par exemple, ça m'énerve, tu vois.
Et je dis « Mais vas-y, bouge de quoi ?»
T'as répondu ça ?
Non, mais j'étais là, bah, pfff.
Moi, tu vois, je réponds tout le temps parce que tout m'énerve. Mais genre, les gens... Tu vois, moi, par exemple, je fais du vélo tout le temps. Il y a plein de fois, il y a des gens qui font des erreurs. Tu vois, des gens qui regardent pas sur la gauche, ils traversent et tout. Bah, je m'arrête, tu vois. J'ai vu, le gars, il m'a pas vu. Qu'est-ce que ça va faire que je mette même, tu sais, la putain de sonnette, là. Tu sais, les gens qui sont en vélo et qui font de la sonnette absolument toutes les 5 secondes. Genre, tling, tling, je suis là. Oui, bah, j'ai vu que t'es là, connard. Ah, t'es pas obligé.
Bah, ça y est, il est énervé. Voilà.
En fait, moi, je suis silencieux. C'est-à-dire que je regarde ce qui se passe dans l'espace. Je vois qu'il y a des gens qui font des erreurs, mais je vais pas lui rentrer dedans, mec. Tu vois, et là, il y a les autres qui arrivent qui sont en mode, genre, vraiment, d'un coup, tu sais, c'est genre. Ils veulent te taper et tout, genre, c'est un délire. Genre,
là, on vit dans un monde où on n'a pas le droit de rater, rien. Ah, oui, il c'est... a pas vu. Ah, bah, quoi bah, deux secondes. J'ai raté, pardon. Voilà.
Oui, c'est
trop
vrai,
bizarre, parce qu'en plus.
Pas le droit de rater.
T'as pas le droit à l'erreur.
Eux, alors, à l'erreur de rien.
Quand ils le font, ils s'énervent parce qu'ils, tu vois, on leur dit pas qu'il y a. Enfin, je sais pas, c'est.
Après, est-ce que c'est quelque chose. J'allais dire, est-ce que c'est quelque chose de très parisien ou pas? Mais je me rappelle que quand on était allé à Cannes, il y a pas longtemps, il y avait une meuf qui m'avait méga mal parlé au casino. Pas le casino, attention, on arrive bien sapé, il y a au casino le supermarché.
Ah bon, je me rappelle.
Ah ouais.
Non, si, elle m'avait trop mal... Non, mais je crois que t'étais pas là, j'étais avec Midi. Et elle m'avait trop mal parlé, mais en fait, je sais pas, les gens ont ce réflexe comme ça, je sais pas, ils sont. Tiens, j'ai une proposition de petit jeu lié au podcast pour vous.
Ah,
vas-y.
Dites-moi des mots que vous détestez. Je vais vous expliquer, par exemple. Okay. Je déteste le mot nichon. Je déteste ce mot.
Ah bon?
Il y a des mots comme ça qu'on déteste.
Tu, ah, vois. Tu ouais. préfères Nibar.
Ah, t'as bien, toi?
Ouais. T'as bien Nibar.
Mais toi, t'as un gros amateur de
Bon, allez.
Non, mais j'aime pas ces mots. La consonance de ce mot, je déteste. Ouais, des
ça,
mots comme ça
ressemble à cornichon, c'est pour ça.
Non, ou au bidochon, je sais pas, j'aime pas. Tu vois.
Moi, il y a des mots que j'aime pas.
Faire Nibar,
moi. C'est plus des mots où j'ai envie de dire, pourquoi vous dites ça alors que c'est une réunion? Par exemple, tu sais, quand les partis politiques font, on a fait une université d'été, ta gueule. C'est une réunion en fait. Tu vois ce que je veux dire?
Et
on s'est réunis quoi.
Ouais,
c'est une université d'été, non? C'est insupportable.
Ouais, je vois très bien ce que tu veux dire.
J'aime pas ce délire.
Parfois, des gens ils prennent des,
ah, moi,
des détours pour dire un truc très simple.
Oui, c'est une réunion quoi.
Ah, moi, c'est des trucs d'agence et tout, bossant à Combini et tout. Franchement,
ah, oui,
des fois,
ah, vas-y, dis-nous.
En ce moment, la mode c'est edgy. Je comprends pas ce que ça veut dire, les gars. Ouais, là, il nous faut un truc edgy. Je comprends pas. Je sais pas ce que
c'est. Alors, c'est-à-dire quoi, edgy, du coup?
Mais je sais pas. Ils le mettent 8 fois dans chaque réunion, 8 fois dans chaque mail. Et là, faut que ça soit un peu edgy. Mais je comprends pas. Je sais pas ce que vous dites.
Mais dis-leur comme ça. Hein.
Et de temps en temps, il y a un vocabulaire comme ça. Il y a un mot. Il devient. Voilà. C'est la mode. Pendant 6
ouais,
mois, tout le monde dit ça. Ouais, t'inquiète, là, on est bien edgy et tout. Mais de quoi on parle? C'est quoi? C'est genre.
Ouais.
On est cool, on est clean.
Mais parfois, non, mais en fait, moi, je me rends compte qu'il y a plein d'expressions que j'aime pas, tu vois. C'est comme sur Twitter, les tweets qui commencent par on en parle de.
Ah ouais.
Juste, ça commence comme ça.
On en parle ou.
Je déteste ça, ça m'énerve. Et moi, je crois qu'on a fait le tour, là. On a fait le tour pour cette semaine.
Il y a pas mal de trucs.
Il en reste encore, là.
On a tout vidé pour cette semaine.
Putain, et après, ouais. Dites-nous si vous êtes d'accord avec nous, hein, surtout.
Hein. Ah ouais, parce que si vous n'êtes pas d'accord avec nous.
C'est des débats.
Non, mais en vrai. Le podcast, ça peut aussi servir à ça.
Exactement. Parce que les,
on parle, on dit ce qui nous énerve. Dites-nous si c'est énervant ou pas. Dites-nous si voilà, c'est un débat. Hein. On n'est pas là pour dire on a raison.
Dites-nous ce qui vous énerve aussi. Balancez-nous votre podcast.
Est-ce que edgy, vous comprenez ce que ça veut dire? Voilà. Est-ce que vous trouvez que les gens qui ont de la chance, ils n'ont pas à se plaindre? Voilà.
Edgy.
Ça, non. Okay. Alors,
on va crafter un truc.
Dans l'idée de recentrer sur le ciné, quand même.
Ah ouais.
Il y a quand même un truc qui m'a toujours énervé avec le Twitter ciné. Alors moi, j'observe vraiment ça de loin parce que je veux pas prendre part au débat parce que c'est trop long et que c'est trop chiant, en fait. Mais c'est la condescendance des gens, en fait.
Oui.
Il y a un truc avec le ciné, quand même, qui a plus qu'avec le foot ou avec d'autres
sujets.
Mais il
y a sujets, la musique aussi. Dans la musique, c'est un peu
pareil. Ouais, aussi, tu vois, mais il y a quand même ce truc avec le ciné très condescendant où les gars, ils se prennent vraiment pas pour n'importe quoi. Tu vois, ça m'énerve, ça.
Cette façon de décortiquer. Enfin, en fait, ils s'écoutent tweeter, quoi.
Ah, ça, c'est un super truc, Guillaume. Les gens qui, parfois, pour faire une critique de film, se regardent écrire, en fait.
Ouais, de ouf.
Tu sais, ils cherchent la critique la plus complexe juste pour qu'on les suce, quoi. Tu vois. C'est vrai, franchement.
Souvent, on comprend rien à la phrase.
Ouais, ouais.
Non, mais voilà, tu sais, je sais pas, tu vois, genre, tu sais, je sais pas, ça m'énerve.
Ouais, je suis d'accord avec toi.
On en revient à la fameuse phrase de mon père.
Ah.
Enfin, je dis ça, c'est une phrase qui existe souvent, mais une fois, j'étais énervé là-dessus, sur les gens, tu sais, qui disent toujours, enfin, tu vois, ce délire d'être spécialiste d'un sujet alors que t'y connais rien, tu vois.
Ouais.
Et tout d'un coup, tu sors des grandes phrases alors que t'as jamais kiffé ça, tu vois. Moi, ça m'a fait ça quand les gens ont commencé à tous parler du rap alors qu'ils en avaient jamais écouté. D'un coup, ils avaient tous des trucs à dire sur le rap parce que c'est devenu la mode. Et j'étais là, genre, fermez bien vos gueules, en fait. Nous, on est là depuis 20 ans.
Tu l'as pas dit comme ça sur Twitter.
Quoi. Si, j'ai dit fermez bien vos gueules. Mais le truc, c'est que je parlais de ça une fois en famille et tout, j'étais un peu énervé comme ça, et mon père, il a rien dit pendant pas mal de temps. Après, il a dit juste une phrase, il a dit, tu sais, la culture, c'est comme la confiture.
Ouais, bien sûr.
Moins t'en as, plus tu l'étales.
Ouais,
et là,
j'ai
fait, allez, hop, c'est bon, il n'y a plus besoin de se faire chier. Si tu fais des tweets, et maintenant, à chaque fois, je me dis, bah vas-y, c'est pas la peine de parler, c'est même pas la peine de répondre, en fait, parce que...
Est-ce que ce serait pas une belle fin pour clore ce podcast à cette phrase de ton père?
Et pourquoi pas?
Il serait
très honoré.
On n'essaierait pas de résumer le podcast en tweet ciné? C'était un podcast au cordeau au service de sujets brûlants, comme des gens. Allez, vos gueules.
Avec un chef-op.
Très souvent avec Guillaume, on se dit quand même globalement vos gueules.
Ouais.
Globalement.
Alors, globalement, je vais vous dire, hein, ça s'adresse à peu près à tout le monde, globalement vos gueules. Voilà.
C'est pas méchant.
Pas aux abonnés de TFTC, attention.
Ah non. Non, mais on est une famille. Mais vous voyez ce qu'on veut dire ou pas?
C'est la famille.
Il y a plein de gens où on se dit, oh là là, globalement vos gueules, non?
Oui, globalement vos gueules. C'est le beau mot.
C'est la pire conclusion. Faut que le podcast, il s'appelle comme ça sur les plateformes. Globalement vos gueules.
Ah, c'est horrible.
Non, non, c'est horrible, c'est horrible. Non, non,
pas, non mais on est pour la liberté d'expression.
Bon, hein. Écoutez, vous savez quoi,
vous parlez beaucoup quand même.
Non, non, on vous aime.
Dites-nous sur Twitter, si vraiment sous le tweet du podcast, si vous voulez qu'on continue le pod chiasse.
Ou si vous trouvez affreux. Ouais, mais en fait, ils sont affreux, ces gars-là. Ils n'ont rien et tout.
Non, qui parle juste de films, là. Les trucs de société, c'est relou.
Il est là en mode genre, ouais, c'est Curb, il y a enthousiaste, tu parles, c'est Monsieur Burns, les mecs.
Non, en vrai, c'est Curb. Il y a plein de nous qui nous agacent et on le dit, quoi.
C'est Curb, c'est Curb.
Eh bien, écoutez, c'était un plaisir. On rappelle les trois films. Non, on termine toujours en se demandant quel film donne envie à l'autre. Alors, moi j'ai déjà vu le film dont tu as parlé, Guillaume. Donc, j'ai jamais vu celui d'Aurélien. Donc, je vais être intéressé par le film d'Aurélien, forcément.
Moi aussi, j'irai voir Épouvante à New York, je crois.
Et Aurélien?
Bah moi, Amusement Park, j'ai failli le
personne
regarder.
De voir mon film, quoi.
Si, bien sûr.
Si, ouais.
Moi, je suis chaud de voir. C'est juste que je suis
chaud. Avec ta grenouille, là, je sais pas quoi.
Avec grosse grenouille, là. Globalement, fermez vos gueules. Mais,
c'est le film qui a inspiré Scream.
Ouais, c'est vrai.
Ouais, c'est vrai. Non, tu m'as intrigué de fou, surtout début 90 et tout. J'aime bien les trucs comme ça, moi. Non,
écoutez, on vous souhaite un bon Halloween. Est-ce que vous allez fêter Halloween, vous?
Tu veux qu'on fasse quoi? Aller chercher des bonbons?
Si, tiens.
Non, mais parfois il y a des petites soirées déguisées.
Pour Halloween, figurez-vous que nos amis de Palavas Péniche, pour ceux qui connaissent, Babor, Camille, Teddy, etc., ils font un Palavas Péniche Comedy Club le soir d'avant Halloween, où j'aurai l'honneur de jouer. Donc si vous voulez venir.
Et alors, faut se déguiser ou pas?
Non, je crois pas. Ah, si. Okay.
Mais c'est en mode flippant.
Est-ce que vous êtes déjà déguisé pour Halloween?
Ouais, bon, une fois.
Ouais, je crois.
C'était quoi le déguisement?
J'avais juste mis une cape de la mort, là. T'sais.
Comment, pardon?
La cape de la mort, enfin tu sais, genre. Voilà.
D'accord, on va lire.
Non, moi je crois pas.
Jamais tu déguisé?
Enfin, à chaque fois, c'était genre, haha, je suis un peu décalé, du coup, je me déguise pas un truc d'Halloween. Oui, genre banane, tu vois le délire?
Ah ouais. Une fois, banane, si j'avais mis, tu sais, le couteau là. Le couteau que tu mets, que ça fait stylé de traverser.
Mais soit Halloween, en soi, si c'est genre, tu te pointes une soirée, t'as juste mis des dents de vampire, bon allez. Soit Halloween, tu vas dans l'excès et tu te déguises de ouf. Ouais. Mais sinon,
là, t'es en train de critiquer ce que vient de faire. L'entre-deux,
il est relou.
Je fais que l'entre-deux, moi. Ouais, couteau.
Moi, quand j'étais à Montréal, parce que Montréal, il fête à fond Halloween, vous imaginez, je m'étais déguisé en prêtre de l'exorciste avec. J'avais ma Bible. J'étais habillé en prêtre
et
j'avais plein de vomi vert sur la gueule.
Oh, ah bien, bien.
C'était mon déguisement. Disons qu'on s'était en avoir du vomi sur la gueule, quoi.
Ouais, pas mal.
Globalement. Mais sinon, je pense pas mettre... Un déguisement d'Halloween que j'adore, c'est le déguisement de Ralph Macchio dans Karate Kid où il est déguisé en douche.
Ouais, grave.
Ah ouais.
Il a un poteau de douche dans le dos et en fait, il y a juste un rideau de douche en rond. Et
Très bonne idée.
Très bonne idée. Et ça, très bon plan pour pécho en soirée, quoi.
Non.
Bah si.
Bah okay. Tu fermes la douche.
C'est ce qu'il fait dans le film. Donc bravo,
très fort le gars.
Qu'est-ce que je pourrais ajouter? J'ai pas envie de vous laisser tout de suite là, mais je vous aimez les bonbons d'Halloween?
Il y a plus rien dans le
bah alors, c'est...
vous aimez les bonbons d'Halloween?
Je vais revenir sur le cinéma et tout. C'est quel est le film qui vous a fait plus peur?
Super histoire
mais bon, attendez,
de même quand vous étiez petit et tout.
Moi je vais dire le film d'horreur qui m'effraie le plus, c'est L'Exorciste.
Ouais,
tu l'as vu combien de fois?
Je sais pas, je dirais 3-4 fois, mais par contre, la franchise que j'aime le plus, parce que ça c'est vraiment un truc qui me fait flipper, c'est Amityville, figure-toi.
Ah ouais?
C'est pas des grands films d'horreur, mais l'histoire d'Amityville me fascine, la maison me fascine, l'histoire du meurtre en tant que tel me fascine, ce qu'il y a eu après me fascine, le fait que des gens vivent encore aujourd'hui dans cette maison sans avoir peur me fascine, l'enquête des Warren qu'il y a eu là-bas me fascine, bref, tout me fascine autour d'Amityville. Toi, Guillaume?
Moi, le film qui m'a le plus traumatisé, c'était évidemment ça, Il est revenu.
Le vieux
avec Stephen King téléfilm qui passait sur M6, notamment parce que ma mère m'avait fait, enfin j'avais le droit de le regarder, mais elle m'a dit à la pub tu vas te coucher, du coup j'avais jamais eu la fin.
Ouais.
Et en gros ça m'avait, le clown il est surtraumatisant.
Ouais, de ouf.
Et t'as aimé les nouveaux?
Ouais, je trouve ça pas mal.
Ouais, ils sont pas mal les nouveaux.
En vrai c'était pas mal. Hein.
Et d'ailleurs je crois qu'on l'avait vu au Grand Rex. Ouais, le Grand Rex.
Cool. Mais c'était chiant parce que, alors ouais, ça aussi ça nous énerve.
Ah, allez, c'est reparti le podcast.
Les influenceurs qui ont la chance d'aller au cinéma sur invite.
Ouais, ça nous énerve.
Bah, tenez-vous bien en fait.
Alors, on va vous expliquer quelque chose. Les soirées, les avant-premières avec des influenceurs, c'est une horreur. c'est une erreur parce
parle, qu'il
il respecte rien et surtout il y a un truc qui m'énerve,
ciné,
en fait. C'est que moi quand je vais au ciné, alors je vais pas faire mon gars parfait, pas du tout, mais quand je vais au ciné, j'ai au moins ce truc de respect de prendre ce que j'ai pris, quoi, mon paquet de popcorn, ma bouteille. Ouais. Et il y a des gens qui nettoient après, en fait. Eux, ils s'en battent les couilles, ils laissent tout par terre. Quand vous sortez d'une avant-première avec des influenceurs, par terre, c'est une horreur. C'est une horreur, c'est dégueulleasse. Il y a des gens qui nettoient après, ça me rend
fou. Ça ne
ils parlent pendant le film, ils répondent à leur téléphone, ils prennent des photos. Des
ils essaient de faire des blagues sur les blagues, ça je déteste.
Ouais, c'est
Il y a une blague dans le film, le mec va faire « Oh oh !»
Ta gueule, c'est en fait, le pot de chiasse, on s'arrête. On s'arrêtera jamais.
Je vais vous dire pourquoi j'aime pas les films d'horreur. Par exemple. Pourquoi, si vous me posez la question, par exemple...
Pourquoi t'aimes pas les films d'horreur, oui.
Voilà, par exemple. Bah, en fait, je crois, pour m'en être rappelé, que ma nourrice, elle avait une fille qui devait avoir 13-14 ans, tu vois, qui regardait des films d'horreur quand moi, j'étais là et que j'avais 6-7 ans, tu vois. Et je me rappelle de Candyman.
Ah oui,
mais c'est un bon âge pour regarder.
Freddy et tout. Mais j'avais 6 ans.
Ah, 6 ans, ça
fait. Et en fait, j'en faisais des cauchemars un peu. Genre, je me rappelle de scènes de.
Pauvre Nemo.
De gens dans des body bags, là. Et tu sais, je sais pas. Je mélangeais tout, je pense. Ça se trouve, c'était les contes de la crypte, tu vois. C'était pas très horrible. Mais en fait, ça m'a suffi pour me dire. Ah, j'ai pas envie d'avoir ce sentiment-là. Et plus tard, à part les screams et tout, qui sont pour moi juste des thrillers, tu vois. Mais dès que c'est vraiment un peu horrifique, bah, je panique.
Ouais, je comprends.
Très bien. Aurélien. Eh bien, écoutez, on va se quitter là-dessus. Bah, on se retrouve dans une semaine pour un podcast traditionnel avec un invité.
Oui.
Et la semaine d'après pour reparler de 3 films. J'ai déjà hâte d'y être. Un petit mot de fin, Guillaume Aurélien ?
Dites-nous si vous aimez le pot de chiasse.
Et globalement, fermez vos gueules.
Oh là là ! Oh non, arrête.
Eh, soyez normaux. Non, ça marche pas.
Non, attendez, non, j'ai une vraie fin. Ah. En vrai, franchement. Depuis que le podcast est revenu, je reçois plein de DM sur Insta, vous aussi vous en recevez les gars,
ouais.
De gens qui sont trop contents que le podcast revienne, un rythme d'une fois par semaine, et vos messages ils sont trop gentils. Là récemment j'ai envoyé un message dans la conv, très souvent j'envoie des screens aux gars, et en fait vos messages, il y a des messages, ils sont trop gentils quoi.
Merci beaucoup, merci de nous suivre, vous êtes trop gentils.
Et du coup on vous remercie, on vous adore. Voilà, ça c'est un bon mot de la fin.
On vous aime.
On vous aime.
Bravo.
Tu l'as pas dit Aurélien, on vous aime.
Bah si, je les aime
tous. Ouais, salut tout le monde, ciao ciao.
Allez salut.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.